Ça va faire jaser ça, ce sujet-là, dans les prochaines minutes, puisqu'on a le plaisir de recevoir un invité qui est un scaphandrier de profession, fait ce métier-là à travers le monde. Si vous avez des questions pour lui, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021 par texto, les amis. J'imagine que vous en aurez beaucoup. Sur la route...
Il y a un accident en ce moment sur Henri IV Sud. Sortie vers Échangeur, boulevard Laurier, c'est partiellement entravé. En fait, c'est une panne de ce côté-là. Il y a un accident aussi sur la 20 Ouest, hauteur kilomètre 316, juste avant la voie de Desserte, là, la voie de droite qui est bloquée. C'est un véhicule lourd qui est en panne, fait que ça prend généralement un peu plus de temps à dégager. Quoi que ce soit, 88-971-102, un texto.
Parfait, je vous le présente. C'est un scaphandrier depuis plus de 20 ans. Son nom, c'est Sean O'Neill. Salut, Sean.
Salut.
J'ai pas trop scrappé ton nom.
Tu l'as eu parfaitement, merci.
Je l'ai eu parfaitement. Scaphandrier, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux nous déterminer ce que c'est qu'un scaphandrier?
Un scaphandrier, c'est quelqu'un qui fait des travaux sous-marins.
Ouais.
Fait que tous les métiers de la construction, grosso modo, sur Terre sont séparés. Dans l'eau, on les fait toutes.
Toute
fait,
la gang.
Ouais, fait que ça peut. C'est beaucoup des travaux de sur les structures, des barrages, des quais.
Ça peut être de la soudure?
Ça peut être de la soudure. C'est la première chose que tout le monde pense quand il pense à la plongée. C'est vraiment une des questions qu'on se fait souvent plus poser. Oui, il y a de la soudure, mais c'est pas juste ça qu'on fait.
Moi, je fais de la plongée sous-marine de façon amateur. Faut prendre des cours pour faire de la plongée sous-marine de façon professionnelle. Le métier de scaphandrier, passez-vous par les mêmes étapes? Donc, on commence amateur, après ça professionnel, puis on continue de monter?
Oui, pour entrer à l'école de plongée professionnelle, tu dois avoir fait au préalable là, ton cours comme PADI, là, c'est un exemple, pour prouver que t'es à l'aise dans l'eau. Là, t'sais, c'est pour pas que ça pourrait attirer quelqu'un puis qui a jamais été dans l'eau. Puis là, il arrive à l'école, il vient de dépenser beaucoup d'argent, puis finalement, c'est pas pour lui. Fait qu'au moins, oui, un minimum de plongée à faire. Pour avoir accès à l'école de plongée professionnelle.
Puis ton cours, tu l'as fait à Rimouski?
Moi, je l'ai fait à Toronto.
Toronto.
Seneca College, par choix. Au Québec, l'école de plongée est à l'Institut maritime de Rimouski. Moi, à mon époque, c'était 2 ans, puis c'était en français. Puis moi, ça a toujours été mon but, c'était de travailler à l'international. Fait que c'était important pour moi d'étudier en anglais. Puis d'apprendre les termes en anglais, puis de faire les contacts en anglais pour pouvoir travailler à l'international.
Puis est-ce que c'était très contingenté comme programme? Parce que j'ai été voir le programme dans le secteur de Rimouski. Je trouvais que ça avait l'air d'un programme intéressant. Puis en jasant avec des gens qui travaillent là, qui sont enseignants, effectivement, c'est contingenté. En Ontario, est-ce que ça l'était aussi?
Oui, ça l'était aussi.
Ouais.
Puis c'était aussi géré un peu comme... comme dans l'armée, du fait que, oui, quand tu étais accepté et tu rentrais, on était à peu près une quarantaine au début, mais il y en avait 12 qui finissaient. Il y avait comme un système d'élimination. Fait que le but, c'était de jamais finir dans les 2 derniers moins bons, que ce soit académiquement ou dans les projets sous-marins.
Parce que ça prend énormément de discipline, là, cet emploi-là.
Ben oui, je dirais. Tu vas peut-être rencontrer des scaphandriers qui n'ont pas beaucoup de discipline, là, mais ça existe aussi. Mais oui, moi, règle générale, moi, je me considère comme quelqu'un qui est assez discipliné là, dans la vie. Là,
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement... tu sais, moi, mettons, dans la variété de choses à laquelle j'ai pensé faire quand j'étais plus jeune, scaphandrier, jamais revenu, là.
En effet, au Québec, on n'est pas beaucoup exposé au métier de la mer. Pourtant, on vit tous sur le bord du fleuve, le deuxième plus gros cours d'eau quasiment au monde.
Ouais.
Mais c'est ça, pour avoir travaillé avec des gens d'autres pays, c'est beaucoup plus naturel, le monde maritime. Souvent, ils ont soit un oncle qui était pêcheur ou un cousin qui est scaphandrier. Ou, tu sais, ici, c'est pas la première chose que les gens pensent. Fait que, puis moi non plus, quand j'étais enfant, je connaissais pas ce métier-là. Je l'ai connu plus tard, à l'âge adulte. J'ai rencontré quelqu'un, là, je pense que j'avais 20 ans environ, puis c'est là que ça a décliqué. Là. Puis je faisais pas de plongée non plus.
OK.
Non, moi j'ai ça, mon parcours est un peu atypique. Là.
Puis qu'est-ce qui t'attirait vers le métier de plongeur professionnel alors que tu ne l'avais jamais fait? Puis versus qu'est-ce que tu as découvert une fois que tu es devenu plongeur professionnel?
Bien, j'aimerais ça peut-être prendre un petit pas en arrière pour expliquer un peu le processus. C'est que j'ai étudié en gestion hôtelière à la base.
OK.
Moi, tu sais, à l'âge de 14-15 ans, il faut que tu fasses des choix au secondaire qui t'amènent vers quelque chose, vers le cégep. Puis Moi, j'ai grandi au Mont-Saint-Anne, un endroit très touristique. J'ai grandi dans une famille anglophone, donc je parlais anglais. Fait que j'avais tout ce que ça prenait pour travailler dans le domaine touristique puis d'hôtellerie, de restauration. J'avais un ami qui avait un restaurant. Son père avait un restaurant. Je travaillais déjà là à l'âge de 14 ans. Fait que je me suis en allé là-dedans parce que c'est ce que je connaissais. J'ai fait mon DEC au Collège Mérici, ici à Québec. Je suis sorti de l'école. Moi, j'étais un gros fan de planche à neige et de vélo de montagne. Je suis allé vivre à Whistler pendant 2 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie là-bas, au Château Whistler. J'aimais ça, mais je me voyais pas faire ça le reste de ma vie. T'sais, déjà à l'âge de 20 ans, je trouvais ça tough là, de travailler tout le temps le soir, fin de semaine. Je voulais plus. Fait que à ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui, elle était prête à déménager à Vancouver. Puis moi, j'ai fait le saut. Fait qu'on a déménagé à Vancouver. Puis on s'est ramassé qu'elle, son oncle, il y avait un appartement dans le sous-sol de sa maison, à North Vancouver, un super bel endroit. Puis lui, il était scaphandrier. Fait que ça a été mon premier contact avec le métier. Je trouvais ça cool. C'est l'époque qu'on partageait une ligne téléphonique là, en haut et en bas. On recevait des appels de Singapour, Houston, Dubaï. Il était tout le temps parti. Il avait une belle maison. Il semblait avoir une belle vie, tu sais. Puis là, j'étais curieux. J'ai dit, coudonc, un moment donné, autour de sa piscine, quand il était à la maison, j'ai posé la question carrément. C'est quoi tu fais dans la vie? Ou juste, c'est... Puis là, il m'a expliqué qu'il était scaphandrier.
Ouais.
Puis là, les yeux m'ont ouvert. Puis là, j'ai posé la même question que tu me poses en ce moment. Puis là, ça m'a donné le goût.
Ce que tu pensais que c'était versus ce que c'est? Quand tu es dans le fond de l'eau?
Écoute, tu sais pas ce que c'est tant que tu ne l'as pas essayé. Ouais. C'est impossible.
Tu sais, moi, j'avais eu contact avec Christian Saint-Pierre, qui est un plongeur professionnel. C'est un retraité de l'armée canadienne, Christian. Puis il était venu en entrevue avec nous. Dans ce temps-là, on parlait des enfants qui avaient été pris par la montée des eaux dans une grotte. Je pense que c'était en Thaïlande, de mémoire. Et lui, il nous parlait de tout le processus que les Thaïlandais ont fait avec les équipes internationales pour aller sauver les enfants. Puis il me parlait, il me disait ce que c'était que dans le fond de l'eau. Puis j'étais là, crime, ça a donc bien de l'air intéressant. Puis j'ai été faire une première plongée avec lui dans une piscine. Par la suite, j'ai décidé de prendre mon cours. Puis l'univers sous l'eau est complètement différent, là. C'est complètement différent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici. C'est le calme total. C'est pour les gens qui font de l'anxiété ou de l'angoisse, je pense que c'est la meilleure activité que vous pouvez faire, c'est-à-dire dans le fond de l'eau, être concentré sur vos instruments.
Moi, j'aurais peur d'être étouffé puis de m'énayer.
Non, mais t'es concentré sur tes instruments, t'écoutes les petites bulles passer, tu te concentres sur ta respiration. Sérieusement, c'est le calme plat en bas, puis c'est l'univers. C'est comme si t'étais sur la Lune. Hmm. Tu te dis, hey, je suis un des seuls à voir ce que je suis en train de voir là, sur la Terre, là.
C'est-tu dangereux, Sean, comme métier? T'es-tu surveillé chaque fois que tu plonges? Comment ça fonctionne?
C'est une question qu'on se fait souvent poser. C'est un métier que, oui, il y a des dangers. Ce n'est pas dangereux. Je veux mettre ça au clair parce qu'on n'est pas des cowboys, on est des professionnels. Les gens, justement, notre éducation, notre formation est beaucoup, beaucoup axée sur la sécurité. On a beaucoup de redondance. Donc, s'il y a de quoi qui brise, on a toujours un backup. Puis souvent, ce backup-là, il y a un autre backup. Puis on a une équipe derrière nous. Fait que, tu sais, des accidents dans le domaine de la plongée, il y en a peu. C'est la seule différence avec d'autres métiers, c'est que quand il y en a, c'est souvent grave. Mais, tu sais, si on fait les statistiques, là, je serais prêt à dire qu'il y a 10 fois plus d'accidents au niveau des électriciens et des menuisiers que celui des scaphandriers. Ouais. Là.
Est-ce que, parle-moi un peu de ton quotidien de scaphandrier, Sean. Tu passes combien d'heures dans l'eau? Est-ce que tu dors sous l'eau? Est-ce que tu es dans des capsules temporelles qui font en sorte que tu ne peux pas sortir de là puis le lendemain, ben, tu replonges dans l'eau alors que tu étais sous l'eau aussi? Comment ça fonctionne?
Bien, il y a deux types de plongées là, dans le domaine. Là. Il y a la plongée à l'air, donc on respire un mélange d'air.
Ouais.
On saute soit du bateau ou du quai, on s'en va faire notre plongée, puis on revient. Ça peut durer 20 minutes comme ça peut durer 4 heures. Là. Au Québec, la limite, c'est 4 heures. Fait que d'habitude, tu vas faire ta plongée, tu sors, tu dînes, puis là, c'est le tour de quelqu'un d'autre qui va plonger. Ou on est des fois deux personnes à l'eau en même temps. C'est des équipes de 4 au Québec.
Ça, c'est scaphandrier?
Oui, ça, c'est scaphandrier. Okay. Fait que, tu sais, t'as un superviseur, t'as une personne à l'eau, puis t'as deux personnes qui supportent le gars qui est dans l'eau. Puis t'as aussi un qui est attitré que si jamais il se passe de quoi, lui, il peut s'habiller rapidement puis aller le chercher. Puis c'est chacun notre tour. Fait que c'est comme ça que ça roule. Il y a aussi le côté, ça fait que ça, c'est la plongée à l'air. Puis, il y a le plongée de saturation. Fait que moi, moi, c'était mon but, puis c'est ce que je suis devenu. C'est comme la, entre guillemets, la Formule 1 de la plongée. C'est que c'est les profondeurs les plus grandes que l'homme peut accepter. C'est la meilleure technologie. C'est souvent dans des pays très loin.
Ça peut ressembler à quoi, les profondeurs où tu plonges?
Ben écoute, moi, dans ma... Personnellement, j'ai pas été nécessairement dans des endroits super profonds pour la saturation. Là. Moi, mon plus profond, c'est 480 pieds que j'ai plongé.
Quand même.
Mais j'ai des collègues qui ont plongé jusqu'à 600 pieds. Mais ça, c'est pas comme une compétition, entre guillemets. Là. C'est juste le fait que moi, j'ai été sur des contrats qui étaient un peu... Tu sais, que j'ai pas tombé sur les gros contrats profonds.
Ouais. C'est quoi l'affaire la plus spéciale que tu as vue sous l'eau?
Les affaires, j'en ai vu, j'ai vu plusieurs bébites que j'avais jamais vues dans les livres, là, que je pourrais même pas t'expliquer. J'ai vu, je me fais souvent poser la question par rapport aux requins. Oui, on envoie des requins à l'occasion, mais non, il n'y a pas de danger. Là. Les plongeurs, j'ai jamais entendu parler d'un plongeur qui a été attaqué par un requin en tant que tel.
Ils sont plus curieux.
Oui, c'est ça. Ils sont beaucoup, puis sont assez intelligents. Fait qu'ils, t'sais, t'as pas l'air d'un poisson, là. Fait qu'ils savent qu'ils viennent te voir, mais
ton équipement, parce que là, tu nous as amené un peu de ton équipement pour qu'on voit comment ça fonctionne. Puis moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point, puis je l'ai mis en passant sur l'Instagram de Boulevard, vous pouvez aller voir les vidéos, les photos, là. Mais c'est lourd, là. J'aurais pensé que dans l'eau, on aurait essayé d'être un peu plus léger. Pourquoi c'est lourd comme ça? C'est-tu parce que ça t'aide à descendre?
Bien, c'est lourd à la surface, mais c'est balancé pour que dans l'eau, ça flotte. Grosso modo, ça pèse à peu près rien. Oui, notre équipement il est très pesant. On a pour à peu près 125 livres.
C'est énorme, là.
Ouais, ouais. Fait que c'est, moi, je suis pas le gars le plus costaud, là. Je pèse 150. Fait que c'est une grosse partie de mon corps. Surtout quand à la fin de ta plongée, tu demandais tantôt combien de temps. T'sais, en saturation, on plonge 6 heures à la fois.
6 heures.
Fait que 6 heures, tu sors de. Faut que tu grimpes à une échelle tout mouillé. Fait que là, tu sais, ton 125 livres, c'est plus l'eau. Fait que là, on est rendu à 150 livres quasiment. Puis t'es fatigué. Ça demande une certaine forme physique. Là. T'sais, c'est pas fait pour tout le monde.
Ouais. Est-ce que tu t'habilles dans l'eau pour que ce soit moins lourd?
Non. D'habitude, on est assis ou on est debout, on s'habille. Puis là, le plus vite possible, on est envoyé à l'eau.
Est-ce que quelqu'un t'aide à mettre le casque ou c'est tout seul?
Oui, non. On est aidé ici au Québec. Les Américains, ils font d'une autre façon, là, une question d'assurance. Là. Ils s'habillent tous par eux-mêmes. Mais partout ailleurs au Canada, là, tantôt, je te disais, on est une équipe.
C'est avec ton binôme.
Les autres, ils t'aident, puis ils s'assurent que tout est beau. Puis toi, on a un processus, un procédé avant de plonger qu'on vérifie tout, puis qu'on prouve qu'en effet, tout fonctionne.
Okay. Je veux revenir au fait que vous plongez très, très, très profondément. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dormir sous l'eau, dans des chambres à part?
Oui, c'est ça, la plongée de saturation, grosso modo, si je peux te l'expliquer, c'est que il y a soit une barge ou un bateau qui a des chambres hyperbares à bord. Ils sont dans la cale, normalement, d'un bateau. Ça, c'est des cylindres d'à peu près 7 pieds, je dirais, de diamètre par 15 à 20 pieds de long.
Ouais.
Puis là-dedans, tu as une équipe de plongée qui vivent pendant un mois à la fois. Okay.
Fait que ça, vous êtes dans le fond de l'eau, là?
Non, on est dans le fond d'un bateau.
OK.
Là, je transfère dans une cloche, toujours sous pression. Pour toujours garder la pression de la plongée dans laquelle je m'en vais faire. Fait que, exemple, quand j'étais à 480 pieds,
ouais.
Bon, ben, moi, je rentre dans la capsule, il est à l'air, ferme la porte, il pressurise ça jusqu'à 480 pieds. Ça peut prendre 3-4 heures pour me rendre là. Là, je m'habille, puis là, je transfère dans la cloche. La cloche aussi est à 480 pieds. Là, la cloche, elle descend dans le fond de l'eau jusqu'à 480 pieds.
Exact.
Là, il n'y a plus de différentiel de pression, donc la porte, à l'ouvre, je suis capable d'ouvrir la porte sans qu'il y ait de succion. Puis là, je descends, puis là, je m'en vais faire mon 6 heures à l'eau pour faire les travaux qui est demandé.
C'est complètement fou. Tu pars pour combien de temps la plupart du temps?
Ben, tu vois, la saturation, le guideline, c'est 28 jours. Fait que mais tu sais, avec le se rendre, puis après, puis avant. Tu sais, d'habitude, c'est des voyages de 6 à 8 semaines qu'on fait. Là.
Oh,
fait que tu disais, moi, la restauration, au diable, la restauration, je travaille le soir, la fin de semaine. Non, je pars 3 semaines.
Oui, mais c'est trippant.
Bye la famille. Comment ça se passe, les relations de couple dans ce merveilleux monde-là? Êtes-vous tous célibataires?
Ben, il y en a. Les mariages, il y en a de moins en moins qui durent longtemps.
Ouais.
C'est un domaine là, qui est un peu plus difficile, mais c'est important de trouver un partner là, qui sait dans quoi qu'elle s'embarque. Mm. Moi, ça fait 19 ans que je suis avec ma conjointe.
Wow. Ouais.
On a 2 enfants. Puis on dit souvent que c'est probablement la distance qu'on a eue pendant longtemps qui fait que la flamme est là. Tu sais, des fois, c'est important de prendre la distance avec son conjoint, conjointe, pour mieux l'apprécier. Mm. Tu sais, je pense que quand ton couple est solide, ça le fait, là. Tu sais, ça...
Puis quand t'es trop souvent à la maison, dis-tu, ce serait le temps que tu repartais en Argentine?
Ben oui, j'ai eu... C'est drôle que tu dises ça parce que ma blonde, elle m'a déjà dit ça. Elle a dit « Ouais, là, tu commences à être tannant, ça serait le temps que tu ailles travailler. »
Besoin d'un break.
Ouais, ouais.
Tu travailles, Sean, à travers le monde carrément. C'est quoi la différence entre travailler, mettons, dans les glaces au Québec comme ça en plein hiver, puis dans les tropiques, mettons?
Ben c'est beaucoup plus facile de travailler dans les tropiques, je dirais. Ouais. Le froid au Québec, l'hiver, il y a beaucoup de challenges. D'un, les glaces, le fleuve, il y a un courant. Des courants qui montent puis descendent. Fait que les glaces peuvent carrément te frapper puis te blesser ou peuvent te pousser dans la direction que tu veux pas. Tu as aussi les équipements qui peuvent geler. Puis moi, ça m'est déjà arrivé là, à un moment donné là, que mon équipement a complètement gelé puis j'ai manqué d'air à cause de ça. Fait que c'est un peu plus difficile, un peu plus dangereux, je dirais, travailler dans l'eau froide. Puis c'est moins agréable parce que dès qu'il y a un bris d'équipement... tu n'as plus d'eau chaude, ben là, tu gèles immédiatement. Puis, c'est
une question de minutes. Parce qu'il vous shoot l'eau chaude dans votre soute, là.
Oui, c'est ça. Nous autres, on a un ombilical, dans le fond, là, un narguilé, c'est le vrai terme, qui nous amène notre air, l'électricité pour la lumière et la caméra qu'on a sur notre casque. Mais on a aussi un tuyau d'eau chaude que lui, dans le fond, on a une pompe qui pompe l'eau de où est-ce qu'on plonge, exemple, dans le fleuve. Ça passe dans un brûleur qui est carrément un thermostat. Nous autres, on le met à la température qu'on pense qu'il va être parfaite. Là, ça redescend vers le plongeur. Puis moi, dans mon soute, j'ai un manifold ici. J'ai des tuyaux dans mes bras puis dans mes jambes avec des petits trous.
Ouais.
Ça fait carrément, ça me pisse de l'eau dessus, réchauffée. Puis moi, c'est au degré près. Là. Si j'ai chaud, je dis descendre 2 degrés. Si j'ai froid, monte de 2 degrés.
Puis t'es hyper confortable avec cette chaleur-là sous l'eau.
Oui, c'est ça. Ça vient compenser. Fait que moi, si j'ai trop chaud, je m'ouvre un peu le soute puis je me fais rentrer de l'eau froide.
Ou, c'est quand même pas pire.
Parce que ça dépend aussi si tu travailles très fort ou des fois, si tu es plus en inspection, tu vas moins bouger, fait que tu vas peut-être avoir un peu plus froid, fait que faut que tu modules ta température.
Ouais, là, tu vas dire que je suis peut-être un peu trop curieux, mais en même temps, c'est à cause de ça j'ai une job. Tu es dans le fond de l'eau pendant 6 heures, c'est ça? 6 heures, tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Bon, des fois, il faut ta toilette. Vous faites comment? Il n'y a pas de toilette en bas?
C'est
une bonne question. Je te dirais qu'avec fierté, j'ai probablement un des seuls métiers au monde où est-ce que tu peux te pisser dessus en travaillant, puis c'est accepté dans le domaine.
Il y a toi, puis, il y a vous autres, puis les pilotes automobile.
Oui, apparemment, c'est vrai. Mais on n'a pas de couche, nous autres.
C'est ça.
Oui, mais peut-être, excuse-moi, je vais dans les détails, là, mais là, c'est parce que tu jutes dans ton sauna, dans le fond, là, dans ton bain tourillon. Là,
oui, oui. Ben, si tu...
Ça vient avec.
Ça vient avec, oui, mais tu as juste à t'ouvrir ton saut puis laisser. Tu sais, c'est pas hermétique. Donc, okay. Le truc, c'est de ne pas le faire 2 minutes avant de sortir, parce que ça sent moins
c'est
bon.
C'est plus tannant. Peux-tu nous parler du documentaire Last Breath qui raconte une histoire vraie qui est arrivée à un scaphandrier en 2012? Puis tantôt, je parlais de c'est-tu dangereux? On dirait que moi, après avoir vu ça, j'aurais pas nié peur.
Ouais, ben ça, c'est le genre de. Quand on revenait à ce qu'on disait tantôt, là, il y a peu d'accidents, mais ça, ça en est un qui a vraiment fait les manchettes dans notre domaine parce que le gars a survécu avec aucun séquel, qui est quand même particulier. L'histoire, grosso modo, qui est arrivée pour de vrai, c'est que les bateaux dans lesquels on travaille sont positionnés avec des GPS. Ils s'appellent du Dynamically Position. Fait qu'eux autres, ils gardent leur position en dedans de 1 mètre ou 2. Exactement au-dessus de où est-ce qu'on travaille. C'est sûr que nous autres, on est attachés avec un ombilical après ce bateau-là. Fait que, tu sais, faut pas qu'il parte, là. Sinon, nous autres, on revole. Fait que là, dans ce cas-là, le bateau a complètement perdu tout pouvoir. Toutes les génératrices de backup n'ont pas embarqué. Donc, ils appellent ça un black ship, là, dans notre domaine. Le bateau s'est mis à dériver dans la mer pendant 40 minutes. Lorsqu'il dérivait, le plongeur, lui, était, à cause de son ombilical, il était au-dessus d'une structure. Son ombilical a resté coincé. Le bateau a arraché a carrément sectionné son ombilical. Donc, il s'est ramassé qu'il n'y avait plus d'eau chaude, plus d'air, plus rien. Puis là, je pense que ça s'est passé dans à peu près 450 pieds d'eau. Tu as à peu près 3 à 4 minutes d'air de réserve. T'sais, on a une bouteille d'eau, une bouteille d'air, pardon, de réserve. Dans le cas de la saturation, c'est un mélange d'hélium puis d'oxygène. Il se ramasse, le bateau est parti. C'est la pire catastrophe qu'un scaphandrier peut arriver. Mm. Là, tu n'as plus de lumière, parce que nous autres, on a une lumière, mais à 480 pieds, tu vois plus rien.
Il faut t'entendre une remontée d'urgence.
Non, impossible. Tu peux pas sortir, tu vas mourir instantanément. Là. Ouais. Lui, là, dans le fond, il était très intelligent. Il s'est attaché après la structure avec un mousqueton, puis il a attendu de mourir, grosso modo. Il y avait à peu près 5 minutes de 4 à 5 minutes, mettons, de réserve pour respirer. Puis
après, t'étouffes.
Ben, tu manques d'air, là, de gaz, là, dans notre cas. Puis là, ça a pris, je pense, 38 minutes là, du moment où est-ce que le bateau a repris la position. Il a réussi à envoyer les plongeurs de secours pour aller chercher. Ils l'ont trouvé, il était inconscient. Ils l'ont ramené à la cloche, qui est quand même très difficile d'amener un gars qui est carrément là, mort, entre guillemets. Ils l'ont rentré dans la cloche, puis il est revenu vivant. De même, mais avec zéro séquelle. Puis ça, c'est quand même... Ça s'était jamais vu, mais ça s'explique. Parce que là, il a été comme, je pense, c'est 36 ou 38 minutes sans respirer, ce qui, normalement, c'est la mort assurée.
Mais le corps a été refroidi très rapidement. J'imagine que ça a un impact.
La théorie, puis tu sais, ça n'a pas été prouvé, mais c'est probablement ça, c'est que vu que c'était dans l'eau très froide, puis il respirait un mélange gazeux qui était très haut en oxygène. Son corps était saturé en oxygène. Ouais. Donc, les cellules ont pu avoir de l'oxygène assez longtemps, même s'il n'en prenait pas en respirant. Puis le fait que l'eau était froide l'a aidé beaucoup, parce que ça a tout... Quand tu tombes en hypothermie, toute ton énergie, toi, ton corps va vers tes organes pour te garder en vie. Donc, tu sais, son cœur, ses poumons ont resté plus longtemps. La théorie, c'est que si c'était arrivé en eau chaude, il serait mort, c'est sûr.
Sean O'Neill, scaphandrier, pour ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine, les premières techniques qu'il nous montre, c'est de vider notre masque qui s'est rempli d'eau dans le fond de l'eau. Nous autres, on l'avait fait, si je ne me trompe pas, c'était dans une piscine, puis je ne croyais pas ça possible. C'était dans le fond de l'eau, puis tu vides ton masque parce qu'il y a trop de l'eau. Donc, tu injectes de l'air dans ton masque. Toi, avec ton casque de scaphandrier, ça pèse à peu près une quarantaine de livres. C'est pas super important dans le fond de l'eau parce que ça doit absolument rien peser, là. Mais comment vous faites pour expulser l'eau qui rentre directement dans votre casque? Vous ne pouvez pas endurer toute l'eau pendant des heures et des heures, là.
Non, nous, on est scellés au cou. Donc, notre tête, techniquement, reste à sec.
Ouais.
Si jamais le seal n'est pas parfait, il y a un petit peu d'eau qui rentre. On a une valve qui nous fait pousser de l'air dans notre casque. Ça crée une pression positive. Ça fait sortir l'eau dans laquelle il est rentré. Là. Fait que le but, c'est de rester la tête au sec.
Okay. Fait que c'est prévu à cet effet. Tu n'as pas besoin d'enlever le masque pour injecter de l'air dedans. Tu as un système qui fait en sorte que tu peux le faire. Parfait. C'est une valve, c'est ça.
Oui.
Là-dessus, tu as un kit de lumière, tu as un kit de soudure aussi. Y a-tu d'autres choses que tu peux avoir sur ton casque?
Ça ressemble à ça. On a une lumière. Fait que plus tu descends profondément, plus tu as besoin de lumière. Tu as une caméra. Nous, dans le fond, on a un superviseur à la surface qui, tout ce que toi, tu vois, il voit au travers de la caméra.
Il vous surveille.
Il nous surveille. Il nous explique. Il nous coach. Il nous guide aussi. Puis c'est lui qui fait le lien entre... Tu sais, nous autres, on fait des travaux mais dans l'eau, mais on a souvent besoin d'outils. On a besoin de la grue. On a besoin... Fait que ça... Lui, c'est le middleman là, qui s'occupe entre le plongeur puis l'équipe de soutien sur Terre. Fait c'est plus facile quand il voit ce que tu fais. Des fois, l'eau, il y a zéro visibilité, puis ça, la caméra ne sert plus à rien, mais c'est là que les bons plongeurs font la différence, où est-ce qu'ils peuvent travailler juste au toucher, au feeling. Puis,
vous travaillez à l'aveuglette un peu.
Oui, des fois. Comme dans le fleuve, là, au printemps, là, tu vois rien.
À la hauteur de Québec, effectivement, tu vois absolument rien.
Ben, je veux dire, l'été, ça se passe bien. C'est à peu près un mètre. Fait que tu vois tes mains. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de voir très loin. Fait que tu vois ton projet. Mais
c'est pas paniquant.
Ben, c'est pas fait pour tout le monde. Comme je te dis, moi, ma mère, elle me dit tout le temps, moi, je serais pas capable de faire ça. Je suis claustrophobe. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Plus que tu le fais, plus que ça devient facile. Les premiers contrats, les premiers projets, tu sais... T'as souvent des choses qui t'arrivent pour la première fois, c'est stressant, mais tu passes au travers, puis... c'est ce qui fait qu'on est des professionnels.
Tantôt, tu as parlé d'hélium, puis ça a retenu un peu mon attention, parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est des gaz que vous respirez. Peux-tu m'expliquer pourquoi, comment? Là, j'imagine que vous parlez bien aigu avec ça.
Oui, oui, ça, c'est ce qui est l'effet secondaire de l'hélium, c'est vraiment la voix, là, que imaginez-vous de respirer une ballon d'hélium, là, tout
tu
le monde
le dit. Tu parles comme les chipmunks?
Exactement, oui. Puis plus que c'est profond, plus que la pression en plus sur les cordes vocales fait que t'es extrêmement aigu. Je t'ai envoyé une vidéo là, pour te donner un exemple.
Est-ce que tu me donnes la permission qu'on écoute un petit bout juste pour faire entendre aux auditeurs? Je te l'ai envoyé, Yann. Là.
C'était la fête de mon garçon là, de 6 ans, puis moi et mes collègues, on lui a chanté « Bonne fête ».
Hey, les conversations doivent pas être sérieuses.
Fait que c'est « Happy birthday, Tom ». Je sais pas si vous avez compris. Là.
Oui.
Donc, mon petit gars Tom, là, qui a 6 ans. Puis, mais ça, en fait, c'est drôle parce que c'est quand même assez grave, ça, comme voix de l'hélium. Là, j'attends pour faire des vidéos, j'ai fait quand on est en décompression, quand on est moins profond, donc c'est un peu plus grave. Plus que tu descends, plus que tu as une quantité d'hélium, puis plus que c'est aigu. C'est particulier parce que j'ai déjà rencontré des gens, moi, que je les avais jamais vus à l'extérieur. On s'est toujours parlé en saturation. Puis la première fois que tu entends la vraie voix de quelqu'un, ça fait tout le temps comme
un... C'est spécial.
Tu sais pas, il y en avait un même que j'étais sûr que c'était un Américain, mais finalement, il était Australien, parce que les accents sont un peu... sont adoucis avec l'hélium. Fait que oui, c'est un challenge de plus. Puis le côté hélium, c'est grosso modo, là, la physique derrière ça, c'est que l'azote qu'on a dans l'air, il y a un mélange d'oxygène et d'azote. Là. L'azote, sous pression, en profondeur, devient narcotique. Il y a un problème. Est-ce que l'ivresse des profondeurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, ça fait qu'on est un peu mêlé. C'est comme l'équivalent de prendre une coupe d'IPA. Fait que ça, ils ont découvert un gaz qui était inerte, qui est l'hélium, qui prenait la place de l'azote puis qui n'avait pas les problèmes de l'ivresse de profondeur. Fait que nous, en saturation, vu qu'on plonge très profond, on prend un mélange d'oxygène, que c'est l'oxygène qui est important pour la vie, puis ils remplissent le reste du gap avec le gaz qui est l'hélium.
Ça, à long terme, vous n'aurez jamais de problème avec ce qu'on vous donne comme air dans le fond de l'eau? Là.
Ben écoute, ça fait depuis les années 60 que ça existe. Puis, ouais. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec des vieux de la vieille, puis ils ont l'air normal. Là.
L'air!
Toi, tu trouves qu'ils ont l'air normal?
C'est ça. Non, mais c'est une question que beaucoup de vieux se sont posées, parce qu'il y a eu pionniers avant moi. Là, mais tu sais, il y en a qui ont 75-80 ans aujourd'hui, puis ils n'ont pas de maladie de plus que les gens normaux de leur âge.
Okay.
Là, fait
que, c'est toujours rassurant, ça. Là.
Ouais. Puis même que je dirais qu'il y a des gens qui prônent l'oxygénothérapie. Fait que l'oxygène sous pression peut avoir des bienfaits qui sont peut-être bons pour le corps là, à long terme.
Tu sais, je regardais ton équipement que tu nous montrais tout à l'heure. Moi, j'ai été faire un tour où la péninsule de Bruce.
Ouais,
puis il y a des pionniers qui faisaient du scaphandrier à l'époque. Là, puis j'ai regardé leurs premières installations pour faire du scaphandrier. Audrey, le gars était avec tout l'équipement de scaphandrier dans le fond de l'eau. Puis c'était rudimentaire. Là, ça ressemblait pas à ça. C'était tout à des costumes de cuir. Là.
Comme Tintin.
Ouais, exact. Comme Tintin. Puis t'avais deux gars en haut dans une chaloupe qui était avec la pompe pour envoyer de l'air en bas.
Seigneur.
C'était.
Faut que t'aies confiance, hein? C'est...
Ben,
oui.
Oui, parce que le gars il prend une pause, là, t'as plus d'air.
Tu manques.
C'était rudimentaire. Tu sais, ce métier-là, faut que tu fasses confiance à tes binômes puis aux gens qui s'occupent de toi pour ta sécurité.
Ben, c'est une des choses que j'aime beaucoup de l'industrie, c'est l'espèce de.
Partnership.
Ouais, le bromance qui se crée entre les gens avec qui tu travailles. Tu sais, je pense que c'est les policiers, ils le vivent un peu. Tu sais, quand tu vis des moments difficiles ou des moments que tu sais que l'autre, il est là pour toi, il se crée un certain lien. Puis moi, c'est une des choses que j'aime le plus de mon industrie, c'est l'espèce de... les gens que tu rencontres, puis tu passes beaucoup, beaucoup de temps avec ces gens-là, puis il y a comme une connexion, là, tu sais, on se comprend parce qu'on est scaphandrier. Là,
quand on est scaphandrier depuis plus de 20 ans, là, ça peut ressembler à quoi, en moyenne, les salaires pour les scaphandriers, pour les gars qui commencent à Québec versus les gars qui sont là depuis 40 ans?
Bien, au Québec, on est régi par la CCQ. Donc, les scaphandriers, ils ont un salaire qui est disponible sur Internet, là, qui c'est environ 47 de l'heure. Puis là, après 9 heures, c'est en double. Les fins de semaine, c'est en double. Un scaphandrier au Québec peut faire environ 100 000, mettons, dans son année. Dans l'offshore, t'as, comme je disais, tu peux être aussi un plongeur à l'air ou un plongeur de saturation. Fait que plongeur à l'air offshore, tu fais peut-être entre 100 000 et 150 000. Puis quand tu fais de la saturation de façon constante, là, tu es payé à la journée en saturation. C'est entre 2 000 et 3 000 par jour que tu es payé. Fait que c'est des salaires de 200 à 300 000 par année.
Fait que c'est ce qui vous permet d'avoir une qualité de vie parce que vous n'êtes pas toujours en train de travailler. Tu disais tout à l'heure, tu pars des fois un mois, même plus. Fait que quand tu reviens ici, tu peux ne pas travailler pendant quelques semaines sans aucun problème puis passer du temps avec ta famille et tes enfants jusqu'à temps que ta blonde te dise « ce serait le temps que tu retournes
». Ben oui, c'est le lifestyle que j'aime. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est que c'est de travailler fort intensément pendant une période de temps puis après ça, être en congé puis... Le problème avec la jeunesse aujourd'hui, c'est que les gens ont soit du temps ou soit de l'argent. Tu n'as jamais les deux parce que si tu travailles tout le temps, tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas le temps pour le dépenser. Moi, je trouvais que j'ai une belle balance parce que oui, quand je travaille, je fais des sous. Puis quand je suis en congé, ben là, je peux vraiment chiller puis faire des projets que j'aime et que j'ai le goût de faire. Puis j'ai... Je ne suis pas pris chez nous avec Ponsen.
Ton voyage professionnel le plus marquant, y a-t-il des anecdotes que tu pourrais nous raconter? Ou...
Écoute, j'en ai tellement. Là, justement, je pensais à ça en prévision de venir vous voir. Là, j'ai fait des pays assez particuliers, là, comme l'Afrique. Là, le Nigeria, c'est une des places qui est assez capotée. L'Inde aussi. Mais des anecdotes, j'en ai des pas pires en Afrique. Là, au Nigeria, c'est un endroit qui est très dangereux du point de vue... Le pays est très pauvre, puis il y a comme une revendication contre les compagnies pétrolières parce que c'est un des pays les plus riches en pétrole, mais l'argent ne se rend pas au peuple. Mm. Fait que là, le peuple, ils sont fâchés, fait qu'ils prennent des gens, ils kidnappent des employés du pétrole. Toi, quand tu arrives là-bas, tu es une cible parce que t'es comme de l'argent pour eux autres. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup... moi, la première fois que je suis allé là, j'avais une photo d'un gars de la personne qui allait venir me chercher. Parce que un des trucs qu'ils font, c'est qu'ils attendent à l'aéroport puis ils mettent des pancartes de des grosses compagnies. Fait qu'ils sont sûrs qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui voit la pancarte. McDermott, mettons, une compagnie de pétrole. Fait que tu embarques avec eux autres dans le taxi puis t'amènes dans la jungle puis ils demandent 1 million de rançon au pays du Canada.
T'sais. Mais ça, quand ta blonde, elle veut t'envoyer parce qu'elle trouve que tu vaux plus cher, tu dis au moins je vaux 1 million au Nigeria.
Ouais, c'est ça. Mais elle a dit moi, je ne paierais pas pour ça.
Gardez-les.
Non, mais fait que là, moi, j'avais une photo d'un gars. Puis là, j'avais même un code. Je trouvais ça drôle parce que le code, je m'en rappellerai toujours, c'est que là, je vois la photo du gars à l'aéroport. Puis là, j'ai dit, les bananes du Nigeria sont bonnes. Puis lui, il fallait qu'il me réponde, oui, mais celles du Canada sont meilleures. Fait que là, je m'assurais que j'étais en effet avec la vraie personne. Tu sais, c'était pas un bandit. Fait que j'étais embarqué avec lui. Puis là, il y a des gardes du corps avec lui. Fait qu'on est à vrai 5. Ils sont tous habillés en des espèces de super-héros des années 80. Là, on embarque dans un suburban noir comme un premier ministre ou un président.
Voyons, j'espère que tu en as profité de faire un selfie dans le genre avec les gars.
J'avais même pas de cellulaire dans ce temps-là. J'ai peur de me le faire voler en Afrique. Mais là... on part. Là, je me rends compte qu'il y a, il y a carrément un Toyota Tacoma en arrière de nous autres avec une mitraillette sur pied dans la boîte en arrière avec des gars qui sont prêts à shooter du monde. Puis là, on a des sirènes. Là, j'étais là, voyons, tu sais, comment attirer l'attention pour rien. Puis là, on est descendu à Lagos. C'était à peu près 2 heures de route pour te rendre jusqu'au bateau où est-ce que j'allais travailler. Puis en fait, je savais pas. On s'en allait à l'hôtel. Tu sais, puis on traversait les terre-pleins. On klaxonnait, c'était n'importe quoi. J'ai vu du monde, tu sais, comme... J'ai jamais été dans une guerre, là, mais c'était la pauvreté totale. J'ai vu du monde là, couché par terre, en tout cas. Fait que juste ça, ça a été quelque chose. Puis là, t'arrives à l'hôtel, puis là, ça appartient à la compagnie pétrolière, tu sais. Puis là, c'est un compound avec des murs de 20 pieds. Puis là, tu te fais regarder avec, carrément, tu sais, les bâtons avec des miroirs pour s'assurer que t'as pas une bombe en dessous de l'auto, tu sais. Puis là, tu rentres là. Là, c'est un resort 5 étoiles, juste pour les employés.
C'est un autre univers.
Là, c'est comme... Là, tu te sens mal parce que là j'étais au bar, je prenais une Guinness avec des crevettes, tu sais, sauce super bonne.
Dehors, t'as du monde.
Puis là, je venais de vivre la pauvreté totale. Puis là, c'est là que tu vois justement les inconsistances avec le pays, tu sais. Puis... Mais ça, c'est... Il y a des problèmes de pirates, il y en a beaucoup. Là, finalement, j'arrive à bord, tu sais, après 5 heures de bateau pour me rendre à la barge sur laquelle je travaillais. Puis là, j'arrive, puis là, je vois qu'il y a des plaques d'acier tout le tour du pont où est-ce que le capitaine y est. Puis il y a des trous de balles, genre des centaines de trous, là, tu vois très bien. Puis c'est de l'acier d'un pouce. Je pensais pas que des balles de fusil savent traverser de l'acier d'un pouce. Là, je vais poser la question au capitaine, c'est parce qu'ils te font faire le tour. Je dis, c'est quoi qui se passe? Il dit, ah, ils te l'ont pas dit. Il dit, c'est pour ça que tu es ici. De quoi tu parles? Ben, il y a 5 plongeurs qui se sont fait prendre en otage. Ils sont encore dans la jungle, fait qu'il nous manque des gars. C'est pour ça qu'ils t'ont appelé.
Oh, Seigneur!
J'étais là.
Rassurant.
Hey, et le
bon lundi!
Le gars d'un bureau, il a pas pris la peine de me dire ça dans quoi je m'embarquais. Je capotais. J'étais là, ouais. Ben voyons donc. Là, il y avait carrément des procédures que si jamais on se fait attaquer par les pirates, quoi faire? Parce que si t'es dans l'eau, là, il n'y avait pas assez de temps pour sortir le scaphandrier de l'eau puis aller te sauver parce qu'il y avait un système où est-ce qu'on. Tous les employés allaient dans la cuisine, puis ils fermaient la porte de façon hermétique pour être comme embarré, pour être sécuritaire. Mais le plongeur, lui, il restait à l'eau. Puis, too bad, là.
Bon, doux Seigneur! Ouais. Moi, les pirates, dans ma tête, c'est dans les films, là.
c'est capoté. Fait qu'à bord, on avait des mercenaires, là. Blackwater, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une armée privée, là, de la Virginie. On avait 20 gars, des ex-militaires américains, qu'eux autres, ils avaient carrément des bunkers. Puis on a vu du monde qui s'approchait, ils tiraient dessus, ta-ta-ta-ta. On avait des bateaux de 200-300 forces qui faisaient le tour de notre barge. Parce que nous autres, la barge, ça bouge pas, là. Puis qui repoussaient, puis qui tiraient dessus. Puis,
t'étais là combien de temps?
J'étais allé deux fois.
Hey, mon Dieu. La deuxième pas fois, sa leçon, là.
La deuxième fois, c'est drôle parce que la deuxième fois, je reçois un email, tu sais, pour. Ça te tente, c'était la saison d'après. Puis là, il y avait une augmentation de salaire, tu sais, de quasiment 70 %. Puis là, j'étais là, c'est-tu bon? C'est bon signe ou c'est pas bon signe?
Mais moi, dans ma tête, c'est pas bon signe.
Non, c'est ça. J'avais 22 ans dans le temps.
Un peu plus téméraire.
L'argent m'intéressait. Fait que j'ai sauté, je l'ai fait. Fait que ça a été payant, mais ça a été aussi des histoires, le fun à raconter plus tard. Là, il m'est rien arrivé. Là, ouais.
Sean O'Neill, scaphandrier depuis plus de 20 ans. Tu es maintenant rendu dans la quarantaine. Les scaphandriers, en moyenne, prennent leur retraite vers quel âge?
Écoute, de plus en plus vieux, je dirais. C'est un métier qui est difficile physiquement, mais si tu t'occupes de ton corps puis tu fais attention, il y a moyen de travailler jusque dans la soixantaine.
Ouais. Es-tu un gars qui s'entraîne régulièrement?
Moi, oui. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est juste important pour moi. Je fais pas ça pour le look ou rien. Je me sens bien quand je suis en forme. Puis ça me permet aussi d'être plus performant dans l'eau.
Tu vises quel âge pour la retraite, toi?
Moi, j'aimerais ça travailler dans le domaine jusqu'à dans la soixantaine. C'est sûr que dans la soixantaine, j'aimerais ça être plus du côté superviseur et moins plongé. Ou peut-être, j'ai le goût de rester dans ce domaine-là toute ma vie. Là,
Madame à maison, vas-tu t'endurer à la retraite?
Elle n'aura pas le choix.
Hey, tu vas trouver ça difficile, là!
Ouais, ben, j'ai vécu ça avec mes parents. Mon père, il travaillait à l'extérieur. Puis quand il a pris sa retraite, ça a été un peu plus tough là, à la maison.
Là, c'est où ta prochaine destination, là, sais-tu?
Ben là, cet hiver, je prends ça off, je fais du ski. Au printemps, là, je vais recommencer avec une compagnie locale à Québec, Expertech. Là, je les salue en passant, une excellente compagnie de la région. Puis j'ai un contrat cet été à Terre-Neuve.
Okay.
Moi, depuis quelques années, je prends moins de contrats loin à l'extérieur. Je choisis ceux qui sont un peu plus payants, un peu plus agréables.
Avec les enfants aussi.
C'est ça, j'ai des enfants. C'est vraiment un choix personnel d'être plus proche de la maison. Mais je vais toujours continuer à faire des contrats à l'extérieur. Puis là, cet été, il y a un gros contrat qui se passe à Terre-Neuve, à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Sean O'Neill, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je rappelle aux auditeurs qui se sont joints à nous dans les dernières minutes que l'entrevue au grand complet avec notre scaphandrier de profession va être disponible dans les prochaines heures sur le site blvd.fm. Puis ça n'a pas été super la radio?
Ça a très bien été. C'était stressant, mais je suis content.
T'es stressant. Il scaphandrier, puis il stressait à
venir. Mais oui, c'est ça, on me semble qu'on est du bon monde.
Un gros merci d'être passé. Nous, on s'arrête. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. On vient. Marceau, le soir. Le show.